Eh bien, mes amis, en cette soirée du 6 août 1982, nous voyons s'approcher la fin de la première partie de ce camp et aussi s'ouvrir la deuxième partie. Et nous sommes heureux d'accueillir déjà ce soir nos amis qui se joignent à ce groupe pour terminer avec nous ce temps que nous passons, comme l'indique le thème de ce camp, dans la présence de Dieu. Et ce que nous désirons profondément ce soir, c'est que dès ces premiers instants, les nouveaux venus que le Seigneur aime et connaît puissent vraiment se sentir dans cette présence de Dieu et accueillis par ceux qui sont ici depuis plusieurs jours, accueillis dans l'amour du Seigneur. Nous ne voudrions pas que vous vous sentiez des étrangers, et nous voudrions que vous puissiez entrer de plein pied dans les bénédictions que le Seigneur nous a déjà données et qu'il vous réserve également dès aujourd'hui et dans les journées qui viendront. Nous pensons aussi déjà à ceux qui dimanche vont nous quitter et nous voudrions aussi les assurer qu'ils resteront dans nos cœurs et dans notre prière. On n'a pas pu vivre ensemble ces quelques jours sans que des liens profonds se tissent et nous attachent les uns aux autres. Nous allons demander à Dieu sa bénédiction sur ces quelques instants. Père de gloire, Père Saint, Père juste, Père des lumières, nous voulons ce soir éprouver ta présence et vivre tout près de ton cœur. Nous voulons te demander que tu nous révèles d'une façon plus précise pourquoi tu nous as appelés à l'existence et ce que tu désires pour nous. Nous ne voulons pas seulement nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, mais nous voulons retrouver ton plan initial et comprendre ce que tu veux de nous et ce que nous pouvons maintenant pour toi. Oh, que ta grâce nous soit donnée, que ton esprit nous inspire et que les minutes que nous passons ce soir ensemble autour de la personne de Jésus soient déjà des moments d'éternité. Des moments où nous connaissons ce qu'est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ce qu'est la joie du Christ qui veut inonder nos cœurs indépendamment des circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, ce qu'est l'amour de Dieu qui veut remplir nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donne gloire à ton nom ce soir, ô Jésus. Amen. Mes amis, nous avons répété à plusieurs reprises ce texte qui était sur les lèvres de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, alors que 3000 âmes à Jérusalem se convertirent au Seigneur. Il citait le psaume 16e où il est dit « Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Actes chapitre 2, verset 28e. « Tu m'as fait connaître le chemin de la vie. » C'est du Seigneur qu'il est question, de Jésus devenu homme et qui a assumé pleinement notre condition humaine, qui est entré dans la mort mais qui n'y est pas resté, qui est sorti triomphant du tombeau et qui nous a ouvert ainsi à nous aussi le chemin de la vie. Et je me demande combien de nous maintenant connaissent le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est le Seigneur lui-même. Il a dit « Je suis le chemin ». Et vivre dans la présence de Dieu, c'est vraiment vivre dans le Christ et qui était constamment dans la communion avec son Père. Et dans cette communion, même la nuit où il fut livré, il a pu dire à ses disciples qu'il leur enseigner toutes ces choses pour qu'ils aient sa joie en eux, sa joie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Y a-t-il de la joie dans vos cœurs ce soir? Et vous, mes amis, qui venez d'arriver et auxquels nous donnerons demain soir, quand tous seront là, l'occasion de vous présenter, l'occasion de nous dire au fond ce que vous êtes venus chercher parmi nous. Vous, mes amis, avez-vous déjà ce soir de la joie dans vos cœurs? Connaissez-vous la joie du Christ? Connaissez-vous la paix du Christ? Connaissez-vous l'amour du Christ? Ce soir, 6 août. Et vous qui allez nous quitter, est-ce que vous pouvez dire que vous repartez avec la joie du Christ, avec la paix du Christ, avec l'amour du Christ, et que maintenant, vous n'êtes plus seulement des sauvés, des gens qui ont reçu le Seigneur, mais que vous avez compris ce que le Seigneur attend de vous, ce qu'il désire de vous, ce qu'il veut de votre vie, parce qu'au fond, c'est cela qui est capital, connaître le sens de notre vie. Ne plus être centré sur nous-mêmes, mais être centré sur Dieu, sur Christ. En avoir fini avec nos préoccupations personnelles pour être désormais complètement préoccupé par les affaires de notre Père. Savoir que maintenant c'est Dieu qui s'occupe de nous, et que nous, nous n'avons plus qu'une chose à faire, nous occuper de lui. C'est ça la vraie vie. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Hier, avec l'aide d'un premier schéma, nous avons cherché à vous montrer les quatre phases du plan paternel de Dieu à l'égard de sa créature. Et ce premier schéma, c'était donc celui-ci. Les quatre phases du plan paternel de Dieu. Ce plan qui n'a pas changé. Et j'espère que nos amis qui viennent d'arriver pourront dès aujourd'hui comprendre eux aussi quel a été le dessein de Dieu quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous avez eu une place dans la pensée de Dieu avant l'existence du monde. Avant la création du monde, nous apprenons par la parole du Seigneur que nous avons existé dans la pensée de Dieu. Votre commencement n'est pas à votre naissance physique. Dieu vous a connu à l'avance. Avant que le monde existe, eh bien, vous existiez déjà dans la pensée de Dieu. Et ce qu'il voulait pour vous, il nous l'a montré dans l'Épître aux Romains comme dans l'Épître aux Éphésiens. Ce qu'il voulait pour vous, pour nous tous, c'était que nous parvenions à la gloire de son Fils, que nous soyons rendus un jour semblable à son Fils éternel, à son Fils bien-aimé. Nous avons été connus à l'avance et nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. C'est pourquoi le salut dont nous parlons, c'est un si grand salut. Avant la fondation du monde, tu étais prédestiné à être semblable au Fils de Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui de ta vie? Qu'en est-il de ta vie? Est-ce que tu es en chemin vers la réalisation du but que Dieu avait pour toi en te créant? Nous avons montré que lorsque Dieu a fait la terre, il a, après avoir appelé à l'existence tous les êtres, il a créé l'homme, l'être qui était au sommet de tout ce qu'il a appelé à l'existence. Cet être, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il le prédestinait donc à devenir son enfant, et étant son enfant, à réaliser qu'il était l'héritier de Dieu lui-même et qu'il serait mis en possession de toutes les ressources de Dieu, de toutes les ressources de son Père des cieux, et que finalement, eh bien, Dieu, son Créateur, devenu son propre Père, l'appellerait à régner avec lui, non seulement sur la terre, mais dans les cieux. Voilà le plan de Dieu et qui n'a jamais changé. Il n'était pas question de péché. Il n'était pas question de chute. La chute pouvait arriver, bien sûr, mais dans le plan de Dieu, eh bien, ce qui devait s'accomplir, ce qui devait se réaliser, c'est que sa créature devienne vraiment conforme à l'image de son Fils bien-aimé. Voilà le dessein éternel de Dieu. Mais, étant donné que Dieu crée cet homme à son image et à sa ressemblance, il allait le créer libre. Et le créant libre, l'homme allait devoir subir une épreuve pour voir ce qu'il ferait de sa liberté. Dieu, évidemment, aurait pu le contraindre, l'aimer, de l'adorer. Mais alors, l'homme n'aurait pas été une créature libre. Or, Dieu voulait, non pas un être qui se prosterne parce qu'il est obligé de le faire, mais il voulait un être qui se prosterne parce qu'il l'aime. Un être qui répond à son amour. Un être qui va au-devant de ses désirs, qui s'associe pleinement à sa volonté, qui s'unit à la volonté de Dieu, à son dessein, et qui laisse Dieu réaliser en lui tout son conseil, tous ses désirs. Mais créer réellement cet être libre comportait un risque, disions-nous, c'est que l'homme pouvait dire non à Dieu, non au dessein de Dieu, non au plan que Dieu avait pour lui. Et s'il disait non, eh bien forcément que l'homme se perdait complètement. Et s'il disait non, qu'est-ce que cela manifestait? Eh bien, cela manifestait que de libre qu'il était, l'homme décidait qu'il allait devenir indépendant. Et c'était là la grande erreur de l'homme, car l'indépendance ne peut être l'apanage d'aucune créature. Ce n'était qu'en restant dans la dépendance immédiate de Dieu que l'homme pouvait être béni et que le plan de Dieu, le plan initial de Dieu, pouvait trouver un accomplissement parfait. Mais il fallait que l'homme soit mis à l'épreuve pour qu'on sache ce qu'il allait faire de sa liberté. Et Dieu plaça l'homme, comme vous le savez, dans un jardin. Je ne me suis pas amusé à vous dessiner le jardin d'Éden, du reste je ne l'ai pas vu, je n'y suis pas allé. Je risquerais d'y rencontrer, enfin dans cette région, puisqu'on pense que c'était par là, monsieur l'ayatollah, vous souvenez de son nom? Comment est-ce qu'il s'appelait? Khomeini, hein? Oui, alors, c'est pas le paradis là, en ce moment. Même si on pense que le paradis était dans ces contrées. Non, mais je vous ai simplement représenté les deux arbres qui devaient servir à cette épreuve de l'homme. Il y avait dans ce jardin d'Éden, est-il dit, deux arbres. L'arbre de la vie. Vous allez me dire, pourquoi n'y avez-vous pas fait des feuilles? N'est-ce pas? C'est un arbre dépouillé, dont toutes les branches montent, tendent comme un éventail vers le ciel. Et il symbolise justement ce dénuement, ce désintéressement que l'on trouve en Dieu et qui est toujours prêt à donner et à se donner pour que son but puisse être atteint. Mais c'est un arbre qui n'a pas une apparence extraordinaire. On s'approche de cet arbre avec une confiance éperdue en Dieu. Il n'y a rien pour la vue, il n'y a rien pour attirer peut-être la chair ou l'orgueil de l'homme. C'est un arbre dépouillé. En revanche, il y avait dans ce jardin un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous voyez que toutes les branches et les feuilles, au fond, retournent vers la terre. Et cet arbre était beau à voir, et il avait un fruit qui paraissait excellent et désirable pour rendre intelligent. Et c'est cet arbre-là qu'Ève a regardé sous la pression de Satan, de l'adversaire. Et c'est de cet arbre-là qu'elle a mangé et elle a poussé son mari à faire de même. Et elle a cru que cet arbre allait lui apporter quelque chose. Quoi? Eh bien, l'indépendance. L'indépendance pour ne plus vivre, au fond, dans ce lien avec Dieu, elle pourrait, grâce au fruit de cet arbre, réaliser par ses propres forces, au fond, un but qui devait être certainement, à ses yeux, un but heureux, un but agréable. Voilà donc les deux arbres. Mais Dieu avait mis en garde, d'une façon formelle, Adam de ne pas manger de ce fruit. C'était donc là ce qui serait l'épreuve. Dieu demande à l'homme de ne pas manger du fruit de cet arbre, car au jour où il en mangerait, il mourrait certainement. Alors que va faire l'homme? Qu'a fait l'homme? Eh bien, au lieu de s'approcher de cet arbre qui symbolisait la communion avec Dieu, qui symbolisait au fond le Christ lui-même, en qui se trouvait la vie et qui était de toute éternité, au lieu de s'approcher de cet arbre, de se nourrir de ce fruit et de devenir ainsi l'enfant de Dieu, car il n'était encore que la créature de Dieu, il n'avait aucune vie divine en lui, il avait une vie humaine, la vie que Dieu lui avait donnée, la vie qu'avaient les autres créatures. Il avait donc de grands privilèges, il était sans péché, il avait des facultés remarquables, mais il n'avait pas la vie éternelle. Pour qu'il ait la vie éternelle, il fallait qu'il reste dans la communion avec Dieu et dans l'obéissance à Dieu. Et quel a été, au fond, le péché d'Adam? C'est la désobéissance, n'est-ce pas? C'est la désobéissance. Et à cause de sa désobéissance, il a été privé de la vie de Dieu, comprenez-vous? Et tous ses descendants, eh bien, sont également privés de la vie de Dieu. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce que le plan de Dieu est anéanti? Non. Dieu avait prévu qu'au cas où l'homme disait non, il avait prévu le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption qui permettrait à Dieu d'amener quand même l'homme à ce but que Dieu s'était proposé pour lui. Mais par un chemin beaucoup plus long, le chemin que l'homme avait choisi, il devrait apprendre, hélas, qu'il n'avait aucune force pour accomplir le bien, mais qu'il était capable de faire le mal et qu'il était au fond sans puissance et sans pouvoir. Il n'y a dans la position d'un être indépendant, eh bien, il n'y a aucun pouvoir. Dans l'indépendance de Dieu qu'a choisi Adam, l'homme échoue. Et aujourd'hui encore, ce que vous devez comprendre, c'est que à la suite d'Adam, vous aussi, vous êtes privés de la vie divine. Je ne parle pas du péché maintenant. Comme Adam n'avait pas encore la vie divine, mais pouvait l'avoir, c'était une possibilité pour Adam de l'avoir. Il pouvait devenir enfant de Dieu en se nourrissant de quoi ? De l'arbre de vie. Le chemin de l'arbre de vie ne lui était pas interdit tant qu'il était dans l'obéissance. Mais une fois qu'il eut désobéi, il fut chassé du paradis et il n'eut plus accès à cet arbre de vie. Et c'est la chute qui a eu lieu. Mais la chute n'était pas une nécessité. Et c'est cela que je voudrais que vous compreniez, parce que maintenant, dans l'évangélisation, il semble que tout le salut, eh bien, c'est l'histoire de la chute. La rédemption, évidemment, avait été prévue. Entrez seulement. Est-ce qu'il y a encore des sièges ? Au cas où l'homme disait non à Dieu, Dieu avait prévu d'incorporer à son plan initial la rédemption. La rédemption. Par quel moyen ? Par son Fils. L'agneau de Dieu qui était préconnu, comme le dit Pierre, dès avant la fondation du monde, pour être manifesté au temps propre. Alors, ici, ce que j'essaye de vous montrer, c'est le plan de la rédemption incorporé au plan de Dieu. Alors, ceci, donc, rejoint là, n'est-ce pas ? L'homme a été créé, et il aurait dû s'approcher de l'arbre de la vie, et il pouvait devenir enfant de Dieu, héritier, et se laissant enseigner par Dieu, il aurait été qualifié pour le trône, sans avoir à passer par la mort, sans avoir à passer par la souffrance et tout ce que nous connaissons. Mais il y a une chute, hein, et le plan de la rédemption, alors, est incorporé au grand dessein de Dieu, et de X à Y, vous avez la restauration que Dieu accomplit par la croix. Quand il a dû chasser Adam et Ève, qui avaient fait le mauvais choix dans le jardin d'Éden, il n'a pas pu s'empêcher de leur faire une promesse de miséricorde. Qu'est-ce qu'il leur a promis ? Que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, mais que le serpent qui avait tenté Ève blesserait la postérité de la femme au talon. Et qui devrait être la postérité de la femme? C'était Jésus, le fils de Marie, la mère bénie de notre Seigneur, qui a accepté de prêter son corps pour que l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplisse en elle et que le corps de celui qui allait s'incarner, eh bien, soit prêt à l'heure de Dieu pour être manifesté en chair sur cette terre.
Donc, déjà dans la Genèse, l'annonce d'un libérateur était faite. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous retrouvez chez tous ceux qui ont cru cette espérance de la venue de ce libérateur. Et quand il est venu, eh bien, vous savez que le diable a ligué toutes les puissances de méchanceté qu'il avait suivies dans sa révolte, et la blessure au talon dont il était question, le Seigneur l'a reçue à la croix. Le talon, c'est la partie la plus basse de notre être par laquelle nous touchons à la terre. Et Satan a réussi de blesser le Seigneur, de le toucher dans son humanité, n'est-ce pas ? Mais pas dans sa divinité. Et c'est par la croix, c'est justement par la mort du Seigneur Jésus que le diable a été vaincu. Alors qu'il croyait triompher, Jésus, prince de la vie, entre dans le royaume de la mort et il est le plus fort, il reprend vie et il nous libère, il libère le monde de cette puissance de Satan. Nous n'avons plus à être les esclaves de Satan. Il y a donc dans la croix vraiment une rédemption. Nous avons la rédemption, la rémission de nos fautes par Jésus-Christ et par le sang de sa croix. Alors, tout cela donc se passe, si j'ose reprendre ce schéma, de X à Y. Hein? Et tous ceux qui maintenant reçoivent le Christ comme leur sauveur personnel deviennent enfants de Dieu. Donc, à notre naissance, eh bien, nous sommes comme Adam avant la chute. Vous voyez, l'enfant, eh bien, il n'est pas responsable lui-même, mais il devra grandir et à un moment donné, il aura un choix à faire. Ce que nous devons comprendre dès notre naissance, c'est que nous naissons de la chair. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'est pas né de la chair? Ce qui est né de la chair, chair, là nous sommes d'accord, hein, tous sont nés de la chair. Est-ce que quelqu'un est né avec sa chemise? Il est né au monde avec sa chemise? Vous avez apporté quelque chose dans le monde? Non. Vous n'avez rien apporté dans le monde, et puis, est-ce que vous emporterez quelque chose? Vous n'emporterez rien non plus. Vous le savez, nus, nous sommes sortis du sein maternel, et nus, nous retournons au sein de la terre. Mais, il nous est donné, donc, depuis que le Christ est venu, eh bien, lui est le vrai arbre de vie, et la croix est pour nous le véritable arbre de vie. Et c'est à la croix que nous recevons la vie. Dans la mort du Seigneur, nous recevons la vie. Et nous aurons l'occasion, dans la semaine qui vient encore, de vous montrer tout ce que nous trouvons dans la croix. Délivrance de la puissance du diable. Il est dit qu'à la croix, le Seigneur a triomphé de toutes les puissances spirituelles de méchanceté. Il les a tous réunis, les a tous prises, et il en a triomphé. Le diable est vaincu à la croix, de sorte que nous n'avons plus à être les esclaves de Satan. Il y a une délivrance. Mais ensuite, à la croix, nous qui sommes pécheurs, alors que le salaire du péché, c'est la mort, qu'est-ce que nous recevons? À la croix, nous recevons le pardon de Dieu. Un pardon total et complet de tous nos péché. Dieu n'a pas voulu que nous soyons jugés parce que nous étions nés pécheurs. Il n'a pas voulu que nous soyons condamnés parce que nous avons suivi nos tendances mauvaises et que nous avons accumulé nos péchés. Il a voulu faire une œuvre qui nous rachète de nos péchés. Comme le salaire du péché, c'était la mort, eh bien, le Seigneur a payé notre achat par sa mort. De sorte que maintenant, quiconque croit en Jésus a le pardon de ses péchés. Le pardon des péchés a été payé par quelle vie ? La vie de Jésus. Vous n'avez pas été racheté de votre vaine manière de vivre par de l'or, de l'argent ou des biens, des choses, des biens précieux, mais vous avez été racheté par la vie du Christ. Et dans le Christ, donc, nous avons le pardon des péchés. Mais non seulement le pardon des péchés, mais nous sommes aussi délivrés de la puissance du péché, de la tyrannie du péché. Non seulement le Christ a subi la peine de nos péchés, de sorte que maintenant il n'y a plus de condamnation pour le croyant, mais il nous donne la possibilité, en nous unissant à lui dans sa mort, ce que symbolise le baptême, il nous donne la possibilité de triompher du péché. De quelle manière ? Par nos luttes ? Par la mort. Par la mort, n'est-ce pas ? Comme Christ est mort, nous apprenons que cette croix du Christ n'est pas seulement la croix de Jésus, mais notre croix. Notre croix. Nous n'avons qu'une croix. C'est tout à fait faux et nous aurons l'occasion de vous le souligner. Quand on vous parle de vos croix, que tous doivent porter leur croix parce que vous avez des épreuves, ça n'a rien à voir avec la vérité biblique. Il n'y a qu'une croix qui est la mienne, qui est la vôtre. C'est quelle croix ? La croix de Jésus. Et là où Jésus est mort, nous aussi, nous sommes morts. Et je l'ai dit souvent, que de fois nous avons pensé cela, pour que nous ne péchions plus, qu'est-ce qu'il faudrait ? Faudrait être mort. Si vraiment je suis mort, je n'ai plus ces tentations et je ne succombe plus. Essayez de tenter un mort. Ne bouge pas. Insultez un mort, il vous crache au visage. C'est ça ? Non ! C'est fini. Il y a une puissance et c'est par la foi que vous réalisez cette mort. C'est le Seigneur qui nous dit que non seulement lui est mort, mais qu'il nous a pris avec lui dans sa mort. Pour que nous en ayons fini avec notre nature d'Adam et qui voulait poursuivre son but à lui, maintenant c'est fini, nous ne sommes plus sur ce chemin-là de l'indépendance, poursuivant notre but avec nos efforts personnels. Nous saisissons vraiment, nous cherchons à saisir, à étreindre ce qui est devant nous, et puis c'est l'échec constant. Nous ne sommes pas dans cette voie-là. Nous sommes maintenant à la croix et cela nous conduit à la résurrection du Christ. Non seulement il nous a pris avec lui dans sa mort, mais quand il est ressuscité, il nous a pris avec lui dans sa résurrection. Nous sommes déjà en lui ressuscités. Nous avons la vie de Alors, ce que je voudrais simplement vous montrer ce soir, parce que je ne vais pas allonger, et puis je voudrais que le Saint-Esprit lui-même vous fasse comprendre ces choses. La plupart du temps, l'évangélisation qu'on vous fait vous parle de ce trajet de X à Y. C'est vrai ou c'est faux ? N'est-ce pas ? C'est ça le salut, hein ? C'est c'est cette ligne-là. Il y a eu la chute et puis la rédemption. Alors on vous donne tous les détails sur la rédemption, sur ce que c'est qu'être sauvé, sur ce que c'est que le pardon des péchés, sur ce que c'est même la victoire sur le péché, votre mort avec Christ, votre identification à lui dans le baptême, etc. Et puis on s'arrête là, vous êtes sauvé, vous restez à Y. Et puis, sauvé, ben, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous retournez un peu, tout en étant sauvé, sur cette ligne, vous continuez d'avoir un but, vous êtes sauvé, mais votre but, ben, c'est par exemple, de, oui, je veux glorifier Dieu, mais par vos propres forces, par vos propres efforts. Ben, c'est votre but à vous. Dieu ne vous demande pas de le glorifier par vos propres efforts. Qu'est-ce qu'il vous demande? De vous abandonner et de le laisser, lui, vous conduire. Ce qui compte, c'est que vous poursuivez le but de Dieu. Et le but de Dieu, c'est cette ligne-là, de Y à Z. Et c'est ce que nous allons voir dans les journées qui vont venir, la marcher dans la présence de Dieu pour, étant devenus par la conversion, par la nouvelle naissance, des fils, des enfants de Dieu, eh bien, le plan initial de Dieu va se dérouler. Nous allons franchir cet espace. Devenus enfants de Dieu, ce que nous n'étions pas par nature, nous le sommes par une nouvelle naissance, nous avons reçu Christ, alors nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons maintenant la vie de l'arbre. Nous avons la vie. Et ce qu'Adam n'avait pas, nous l'avons maintenant. C'est cela qui est merveilleux. Nous avons plus qu'Adam. Nous avons maintenant la vie de Dieu. Nous sommes devenus enfant de Dieu. Adam en Éden n'était qu'une créature de Dieu. À votre naissance, qu'est-ce que vous êtes? Une créature de Dieu. Mais vous n'êtes pas encore ses fils, ses enfants. Pour devenir ses fils, vous devez recevoir le Christ. Et alors il est dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Et alors, ayant la vie, eh bien, vous marchez vers le dessein de Dieu. Si vous êtes devenu enfant de Dieu, à vous, toutes les bénédictions du ciel seront données. Le Seigneur vous donnera sa force. Vous pourrez savoir ce que c'est que posséder cette vie éternelle. Et marchant dans la discipline du Seigneur, ayant dans votre cœur la même volonté que lui, les mêmes désirs que lui, eh bien, il vous préparera par toutes sortes de difficultés, par toutes sortes d'épreuves, il vous préparera à son règne, à régner avec lui. De sorte que la chute n'a pas anéanti du tout le plan de Dieu, et si la rédemption est une œuvre merveilleuse, nous ne devons pas nous arrêter à cette partie-là et qui nous parle de la rédemption, mais nous devons comprendre et saisir les vérités et qui doivent nous conduire à l'appropriation de toutes les grâces que Dieu donne à ceux qui vivent dans son amour. Et voyez-vous, ce que je voudrais souligner ici, en terminant, c'est que les croyants sont enclins à laisser l'œuvre divine de la restauration rejeter dans l'ombre la réalisation que Dieu a en vue. Je le répète encore une fois, la plupart du temps, on est occupé dans nos réunions de cela, hein, de ce qui se passe en Trix, puis la chute. Mais est-ce que notre vie a commencé à la chute? Non.
Où est-ce qu'elle a commencé votre existence?
Dans la pensée de Dieu.
Dans l'éternité passée. Alors, ne pensez pas que ça commence là. Dans la pensée de Dieu, avant même que l'homme tombe dans le péché, Dieu vous destinait à la vie éternelle.
Alors ne regardez pas ce que vous êtes maintenant, ne regardez pas à votre état actuel, et cela vous décourage, cela vous déprime, vous vous dites, moi je retomberai toujours, c'est pas cela. Dites-vous, Dieu voulait quelque chose pour moi dès l'éternité. Est-ce que je vais le laisser faire? Est-ce que je vais maintenant le laisser réaliser son plan?
Voyez-vous, ce que je dirais pour terminer, c'est que l'homme est plus réceptif à ce que Dieu a fait pour lui qu'à ce qu'il est destiné à être pour Dieu. Je voudrais que vous soyez maintenant dépréoccupés de ce que Dieu a fait pour vous. Parce que si vous êtes toujours axé sur ce que Dieu a fait pour vous, votre centre, c'est quoi? C'est vous-même. C'est vous-même. N'est-ce pas? Mais que vous puissiez vous demander à quoi Dieu me destine-t-il? Qu'est-ce que Dieu désire pour lui? Je veux être pour Dieu ce qu'il désire, à la louange de la gloire de sa grâce. Et qu'est-ce qu'il veut que nous soyons pour lui? Des fils et des filles qui soient sur la terre comme Christ. Comme Christ. Eh bien, que nous puissions comprendre que par la croix, eh bien, les possibilités nous ont été rendues pour réaliser le plein dessein de Dieu. Et c'est le sujet qui nous occupera dans les jours qui vont venir. Nous prions. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois pour l'œuvre de la rédemption. Nous te louons parce que la chute de l'homme ne t'a pas pris au dépourvu et n'a pas modifié ton dessein. Et maintenant que tu nous fais comprendre que si nous recevons Jésus, c'est le fruit de l'arbre de vie qui nous est donné, parce qu'en Jésus est la vie, et que celui qui croit en lui a la vie éternelle, ayant cette vie éternelle, donne-nous maintenant de laisser cette vie réaliser en nous, jour après jour, ton merveilleux dessein. Dépréoccupe-nous de nous-mêmes et absorbés entièrement par tes désirs que nous puissions marcher de force en force et nous réjouir de l'assurance que nous avons que quand tu as commencé un travail dans un cœur, tu le poursuis et tu l'achèves à ta gloire. Garde-nous les uns et les autres, donne-nous encore des journées bénies et que ton esprit accomplisse en chacun de nous tes desseins merveilleux.